VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 12 juillet 2017. 15 morts au Nigeria dans 4 attentats suicides à Maïdougouri perpétrés par des femmes kamikazes. 80 000 déplacés en 6 jours par les combats en territoire de Fizi, au sud Kivu en RDC selon l'ONU. Au Mali, affrontement dans la région de Kidal entre des groupes signataires de l'accord de paix alors que le comité de suivi se réunissait à Bamako. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson va au Koweït après l'Arabie Saoudite dans le cadre de sa médiation sur la crise avec le Qatar. L'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Au moins 15 personnes ont été tuées dans 4 attentats suicides à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Yakuba Ouedraogo nous en dit plus.
4 femmes kamikazes se sont fait exploser en différents endroits du quartier Molaï Kelemari. La plupart des victimes sont des membres du groupe d'autodéfense qui font des contrôles à Maïdougouri et participent à certaines opérations pour combattre Boko Haram aux côtés de l'armée nigériane. Les jeunes femmes sont le plus souvent utilisées comme bombes humaines pour attaquer les postes de contrôle, les mosquées, les marchés et les stations de bus. Les attentats suicides sont le principal mode opératoire de Boko Haram après 8 années d'insurrection sanglante dans le nord-est du Nigeria. Les attaques ont fait au total 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés.
Le président nigérian se rétablit très rapidement et devrait être de retour au Nigeria bientôt, a déclaré son vice-président après un voyage éclair à Londres où Muhammadu Buhari est soigné. Avant le conseil des ministres à Abuja, Yemi Osinbajo a déclaré à la presse qu'il s'était rendu mardi soir à Londres pour vérifier l'état de santé du président absent du pays depuis le 7 mai. Les membres du comité de suivi de l'accord de paix au Mali se sont réunis à Bamako alors que sur le terrain, les affrontements entre la CMA et la plateforme continuent de faire des victimes. Kassim Traoré.
Après de très violents combats entre la CMA et la plateforme dans deux localités entre Anefif et Kidal, faute de renforts, la plateforme a été contrainte de se replier hors de la ville d'Anefif qui est tombée aux mains de la CMA. Selon les habitants que nous avons pu joindre au téléphone, le bilan provisoire est de plusieurs morts et des blessés, des armes détruites. Au même moment, à Bamako, les différents groupes armés à travers leurs représentants et les médiateurs se sont rencontrés dans la capitale malienne. C'est dans le cadre du comité de suivi de l'accord d'Alger CSA. Il a surtout été question du MOC qui doit être opérationnel à Kidal le 20 juillet de ce mois, mais surtout le retour de l'administration à Kidal. Mieux, le gouvernement malien s'apprête à envoyer une mission de bons offices dans la capitale de l'Adra des Iforas. Pour le gouverneur de la région de Kidal, cette mission doit faire le déplacement malgré la situation de guerre qui se trouve sur le terrain. Sidi Mohamed Ag Ishrach, gouverneur de la région de Kidal.
Et ce n'est pas parce que les gens s'affrontent sur le terrain qu'il faut s'asseoir à cette mission. Je pense qu'il faut la poursuivre et peut-être qu'elle aboutira à quelque chose. C'est même la meilleure opportunité d'aller sur le terrain et tenter de mettre fin d'abord et de réconcilier ensuite les gens qui sont en train de se battre.
Gao, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En RDC, l'ONU a dénombré 80 000 personnes déplacées en 6 jours, fuyant des violents combats entre une milice et l'armée congolaise dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. Le 29 juin, des combats ont éclaté entre l'armée congolaise et les milices Maïmaï Yakotumba, qui avaient pris le contrôle de 4 localités avant d'être délogées 5 jours plus tard. L'ONU estime qu'il y a 3,7 millions de déplacés en RDC. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Toujours en RDC, un journaliste de la radio-télévision d'État, Banga Karaba, a été tué à Bunia, dans le nord-est du pays. L'Union nationale de la presse du Congo en Ituri exige toute la lumière sur ce meurtre. Le syndicat a aussi décrété des journées sans radio et sans journaux aujourd'hui et demain jeudi. Le président soudanais Omar el-Béchir a suspendu les discussions avec les États-Unis au lendemain de l'extension par Washington de l'embargo sur Khartoum. Monsieur Béchir a publié un décret présidentiel ordonnant la suspension du comité qui négocie avec les États-Unis pour la levée des sanctions, a indiqué l'agence de presse officielle Suna. Mardi, le président américain Donald Trump a prolongé de 3 mois la période probatoire décidée pour 6 mois par son prédécesseur Barack Obama avant une éventuelle levée totale de ces mesures punitives. La police zimbabwéenne a violemment dispersé à Harare une manifestation de l'opposition. Il dénonçait des irrégularités dans la procédure d'enregistrement sur les listes électorales en vue des élections de l'année prochaine. Solange Niamouliza nous en dit plus.
Des dizaines de jeunes militants voulaient manifester à Harare pour dénoncer la nomination de responsables des centres d'enregistrement. Les forces de l'ordre à grand renfort les ont dispersés à coups de matraque, gaz lacrymogène et canons à eau. Le mouvement pour le changement démocratique, principal parti d'opposition qui a organisé cette manif, a condamné les excès de la police sur les manifestants et les journalistes. La police réprime brutalement toute manifestation au Zimbabwe, spécialement depuis le mouvement de contestation animé par la société civile qui a agité plusieurs villes depuis un an. Malgré ses 93 ans, Robert Mugabe a annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat aux prochaines élections l'année prochaine.
La prochaine audience du procès de l'attentat du musée du Bardo à Tunis, qui avait fait 22 morts en 2015, a été fixée au 31 octobre. Ce procès s'est ouvert mardi au tribunal de première instance en présence de 22 accusés en état d'arrestation. Il a aussitôt été reporté.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kremlin dément toute implication dans la rencontre entre Trump Jr., le fils aîné du président américain, et une avocate russe en 2016. John Lindon nous en dit plus.
Nous n'avons jamais été en contact avec cette avocate et nous n'avons rien à dire sur cette histoire, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. L'affaire rappelle un feuilleton qui dure depuis trop longtemps. Il ne faut pas nous associer à un tel feuilleton, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le chef de la diplomatie russe s'est dit surpris par un tel montage. Donald Trump Jr. a dit avoir rencontré en juin 2016 une avocate russe, Natalia Veselnitskaya, présentée comme une avocate du gouvernement russe en possession d'informations potentiellement compromettantes sur Hillary Clinton. L'avocate russe a nié tout lien avec le Kremlin. La révélation des circonstances de leur rencontre à New York a renforcé les soupçons de ceux qui craignent une collusion avec la Russie pour battre la candidate Hillary Clinton.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a rencontré ce mercredi à Jeddah, en Arabie Saoudite, ses homologues du quartet arabe anti-Qatar. La veille à Doha, il avait annoncé avec son homologue qatari la signature d'un accord sur la lutte contre le financement du terrorisme. Accord aussitôt jugé insuffisant par le quartet anti-Qatar. Monsieur Tillerson a été reçu par le roi Salman et a rencontré le prince héritier Mohamed Ben Salman. Il a ensuite eu une réunion avec les ministres des Affaires étrangères saoudiens, émiratis, bahreïniens et égyptiens avant de reprendre la route pour le Koweït. Le Programme alimentaire mondial a annoncé pouvoir livrer par voie terrestre de l'aide dans la province de Raqqa en Syrie pour la première fois en 3 ans. Ces livraisons interviennent alors que des milliers de civils ont été déplacés par une offensive des forces démocratiques syriennes. Jusqu'au mois dernier, le PAM avait recours à un acheminement aérien depuis Damas jusqu'à la province voisine de Hasaké, d'où l'organisme distribuait les aides aux régions proches. Désormais, l'acheminement peut se faire par une route qui relie la province d'Alep à celle de Raqqa, indique l'agence de l'ONU. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU a accusé les belligérants au Yémen d'être responsables de l'épidémie de choléra dans ce pays en guerre. La crise humanitaire est le résultat direct du conflit et des graves infractions au droit international, a déclaré ce mercredi Stephen O'Brien devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Plus de 320 000 cas présumés de choléra ont été signalés et 1740 personnes ont péri de la maladie. L'ex-président brésilien Lula da Silva a été condamné à 9 ans et 6 mois de prison pour corruption et blanchiment d'argent, a annoncé le tribunal chargé de l'enquête sur le scandale Petrobras. Si la condamnation est confirmée en appel, Lula ira en prison et ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2018 pour laquelle il est en tête des intentions de vote. Un iceberg de 1000 milliards de tonnes vient de se former après s'être détaché de l'ouest antarctique où la calotte glaciaire subit de profonds changements. Le vélage s'est produit entre lundi et mercredi, ont annoncé les scientifiques de l'université de Swansea au Royaume-Uni, se basant sur des données satellitaires de la NASA. Les chercheurs surveillaient de près l'évolution de ce bloc de glace de 5800 km² épais de 350 mètres. L'iceberg ne devrait pas avoir cependant d'impact sur le niveau des océans car il flottait déjà sur l'eau. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Eki Abadou.
La compagnie aérienne Air Zimbabwe, qui affiche une dette de plus de 300 millions de dollars, a licencié 200 salariés, près de la moitié de ses effectifs. Le but est de réduire les coûts et tenter d'éviter la faillite dans un pays où l'économie est en berne depuis les années 2000. Dans un rapport publié par le cabinet américain McKinsey Africa, la Chine est devenue en deux décennies le partenaire économique le plus important pour l'Afrique. Le commerce sino-africain a été multiplié par 20 et les investisseurs chinois sont de plus en plus nombreux. L'implication de la Chine en Afrique serait donc plus importante et plus diverse que ne le suggèrent les précédentes études. En Côte d'Ivoire, deux marques, Solibra et Brassivoire, se disputent le marché de la bière à coups de panneaux publicitaires. Le marché de la bière est en forte croissance. Sa taille a doublé depuis 2007. Brassivoire compte investir 150 millions d'euros pour produire 1,6 million d'hectolitres de bière par an contre 2 millions pour Solibra. Le marché ivoirien est estimé à 2,8 millions d'hectolitres par an. L'ananas guinéen sera bientôt sur les marchés européens grâce au gouvernement du Premier ministre Mamadi Youla qui a signé avec l'importateur VB International. 100 tonnes sont attendues en France en octobre prochain et en janvier 2008.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par du football. Al-Ahli Tripoli ne veut pas jouer son match retour des quarts en Tunisie.
Tout à fait Nathalie, les Libyens d'Al-Ahli Tripoli affronteront le club tunisien de l'Étoile Sportive du Sahel pour les quarts de finale de la Ligue africaine des champions. La formation libyenne a demandé à la Confédération africaine de football de lui permettre de disputer le match retour en Égypte du fait des troubles chez elle. Les clubs libyens avaient pour habitude de disputer leurs matchs continentaux en Tunisie à cause de l'instabilité sociopolitique qui règne dans leur pays.
Et les joueurs du FC Barcelone ont repris l'entraînement aujourd'hui.
Effectivement, les Blaugrana ont retrouvé la pelouse sous les ordres de leur nouvel entraîneur Ernesto Valverde. Mais sans Léo Messi, Neymar et Gérard Piqué, présentement au Japon pour faire la promotion du club. L'effectif n'a enregistré qu'une seule arrivée, celle de Gérard Delefeu en provenance d'Everton. Et deux départs, Jérémy Mathieu et Christian Tello. L'équipe doit s'envoler le 19 juillet pour les États-Unis où elle disputera des matchs amicaux, dont un classico contre le Real Madrid.
Et justement, le Real Barça à Miami pour du foot business.
En effet, c'est dans le cadre de l'International Champions Cup avec des clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone, les deux Manchester, le PSG, l'AS Roma, la Juventus et Tottenham, tous invités aux États-Unis pour ce tournoi amical. Le clou de ce grand maître du foot business sera un classico Real Madrid FC Barcelone le 29 juillet à Miami avec des billets vendus entre 250 et 4500 euros. C'est la première fois que depuis 1982 que les deux clubs s'affrontent en dehors d'Espagne.
Et les grands championnats européens financièrement au top.
Oui, les recettes cumulées de la Bundesliga allemande, la Liga espagnole, la Ligue 1 française, la Première Ligue anglaise et la Serie A italienne ont plus que doublé, 24,6 milliards lors de la décennie écoulée, selon un récent rapport. Les clubs de Première Ligue sont les mieux lotis avec 4,9 milliards d'euros de recettes sur la saison 2015-2016 et le nouvel accord sur les droits de retransmission télé qui a démarré en 2016-2017 va maintenir cette domination.
On termine par du tennis. Le Wimbledon.
Tout à fait, Andy Murray chute et Djokovic abandonne. Le Serbe Novak Djokovic, trois fois titré à Londres 2011, 2014 et 2015, a jeté l'éponge face à Thomas Berdych, qualifié du coup pour les demi-finales.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Le gouvernement tchadien a revu à la baisse les salaires et indemnités des soldats et officiers dans le cadre des mesures d'austérité pour redresser l'économie nationale. Un décret a été signé à ce sujet le 3 juillet dernier. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar.
Après le gel de salaire et indemnité des fonctionnaires civils et ceux de la police nationale, c'est le tour des militaires, tous grades confondus, de subir les mêmes conséquences de la crise économique et financière que traverse le pays. Désormais, les officiers supérieurs de l'armée tchadienne qui gagnaient 800 000 francs CFA pendant la période de vache grasse, comme l'a si bien affirmé le président de la République Idriss Déby Itno, chutent en flèche. Ils doivent dorénavant se contenter de 360 000 francs CFA et un soldat chute de 50 000 à 34 000 francs CFA. Au cours d'un débat ce lundi à l'Assemblée nationale sur le projet de loi rectificatif à la loi des finances 2017, les députés n'ont pas été tendres avec le gouvernement. Le député Nouradine Deloua Kassiré Koumako y s'érige en véritable défenseur des militaires.
Ne prenez pas un centime de l'argent des militaires. Vous allez nous créer encore les problèmes de coupeurs de route. C'est eux qui assurent la garantie de l'État. Ne les provoquez pas. Les détournements des deniers publics, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le plus simple, c'est de mettre les gens compétents, de bien les payer pour qu'ils ne soient pas tenter. Mais ne commencez pas par ceux qui assurent votre sécurité et qui peuvent vous provoquer des troubles.
Tout comme le général de division Rotuan Yuma Golom aujourd'hui, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, qui a fait observer que le gouvernement est en train de jouer avec le feu.
Ces militaires ont des charges. Ils louent, ils se soignent. On ne peut pas jouer avec le feu. Je trouve qu'il n'y a pas un sens humain dans cette décision. Pourquoi le Premier ministre qui décide de réduire à gauche et à droite maintient son fonds de souveraineté?
Évariste Ngarlom Toldé, politologue et ancien chercheur à l'université de N'Djamena, estime qu'il est normal que les militaires contribuent au redressement de l'économie nationale, même si cette mesure peut être source d'insécurité.
C'est vrai, ils veillent nuit et jour sur la sécurité des biens et des personnes, mais toujours est-il qu'ils ne sont pas des fonctionnaires différents des autres. Et on estime qu'en tant que fonctionnaires, les militaires doivent également subir les conséquences de cette crise financière qui touche le pays. Maintenant, est-ce que ce décret aura des conséquences sur le plan sécuritaire? Cela va sans dire. Simplement parce que, habitués à des facilités financières qui n'est un secret pour personne, aujourd'hui, ils vont être réduits, je ne dirais pas la mendicité. Donc les conséquences sécuritaires sont inévitables.
Les victimes elles-mêmes murmurent dans les coulisses, mais tenues par une obligation de réserve, elles n'ont pas encore jusque-là réagi officiellement. Mais pour le commun des mortels, le pire est à craindre. André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur les législatives sénégalaises du 30 juillet. Un scrutin avec un nombre record de candidats alors que la diaspora sera représentée pour la première fois au Parlement. Comment se déroule la campagne? Les nombreuses candidatures risquent-elles de peser sur le déroulement du scrutin? Quid du retour de l'ancien président Ouad? Que signifiera l'issue du vote pour la présidentielle de 2019? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC compte déployer ses unités dans les localités les plus affectées par les récents combats entre l'armée et les Maïmaï Yakutumba au sud Kivu. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sidikou, l'a déclaré ce mercredi à Bukavu lors d'une conférence de presse au siège de la MONUSCO. Notre correspondant Ernest Mouero nous en dit plus.
Cette déclaration intervient après que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC ait séjourné le 11 juillet en territoire de Fizi, précisément dans la cité de Baraka, à plus de 200 km au sud de la ville de Bukavu. Il ressort des entretiens que Maman Sidikou a eu avec les organisations humanitaires, la société civile locale et les autorités administratives que près de 80 000 personnes ont fui leur village et logis en territoire de Fizi suite au théâtre de combat consécutif aux attaques de Mai Mai à Kutumba fin juin et début juillet 2017. Le président du bureau de coordination de la société civile du site Kivu Maître Patient Bachombe estime que l'activisme des groupes armés en ce moment est un arbre qui cache la forêt.
Ceux qui ne veulent pas que nous organisions les élections essayent d'alimenter les groupes armés de sorte que les élections ne se passent pas cette année. Nous voudrions vraiment que le chef de l'État et ainsi que les autorités de sécurité puissent doter, n'est-ce pas, de toute la logistique nécessaire à notre armée en vue de bouter hors état de nuire, n'est-ce pas, tous ces ennemis de la paix qui, généralement, sont appuyés et soutenus par des politiques.
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC exprime sa compassion vis-à-vis des enfants, des femmes et des hommes qui ont été affectés par ces combats et promet un déploiement des éléments de la MONUSCO dans les zones les plus affectées.
Donc, je voulais avant tout exprimer ma compassion. Nous espérons que toutes ces personnes pourront, avec le retour au calme, regagner leur village, leur foyer. Il est évident qu'il nous faudra endiguer le recrutement des jeunes dans les groupes armés. Dans ce cas de la MONUSCO, s'attacher avec ses partenaires, aussi bien les autorités locales que les ONG et la société civile, étudier les moyens de soutenir la formation et l'insertion des jeunes pour renforcer la protection des populations, qui est une des composantes essentielles de notre mandat.
Monsieur Sidikou invite les autorités congolaises à dialoguer avec les groupes armés pour une pacification durable à Fizi.
Nous sommes, il faut le dire, très préoccupés par les abus contre les populations civiles et nous rappelons aussi combien nous sommes attachés au respect des droits de l'homme par tous, que ce soit les groupes armés, les milices ou les forces de sécurité.
Pour rappel, depuis la veille du 30 juin, jour de l'indépendance de la RDC, plusieurs localités de Fizi, dont Misisi, Lulimba, Lubonja, Iseke, Nyange, Tulonge, Lubichako, Ngalula, Ako, ont été progressivement contrôlées pendant quelques jours par le milicien Mai Mai Yakutumba avant que ces localités ne rentrent avec ou sans combat sous les contrôles des FARDC. Selon des sources militaires, à ces jours, ces éléments insurrectionnels se sont retranchés dans la forêt. Ernest Mouero Bukavu, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Mali, l'insécurité est quotidienne dans la ville de Gao qui abrite le gouvernorat de la région de Kidal et certains habitants déplacés de cette région. Les braquages y sont courants et de nombreux véhicules sont volés. La ville tente de gérer sa propre sécurité pour pallier à l'inaction des forces de sécurité, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
Une fois à Gao, de l'aéroport au centre-ville, on est frappé par les dispositifs sécuritaires devant certains bâtiments de l'aménagement, des barcanes ou des officiers de l'armée malienne. Loin de cette sécurité de haut niveau, on est en pleine ville. Suleiman Sango, communicateur traditionnel, est venu faire des achats au marché de Gao.
C'est la peur au ventre. Nous remarquons qu'il y a des bandits dispersés dans la nature qui font des attaques partout, dans les carrés, dans les villages, sur les routes. Ils font braquer les gens, ils enlèvent les motos, ils enlèvent les véhicules, ils prennent tout ce que tu possèdes. On indexe certains groupes armés, on indexe d'autre part des bandits armés seulement qui n'appartiennent à aucun groupe.
Dans le quartier Château, non loin de la rotisserie Moua, avant d'arriver au bout de la rue, se trouve un bâtiment. Le drapeau malien est sur le toit de l'édifice. On est dans le gouvernorat de Kidal à Gao. Sidi Mohamed Ag Ishrach, le gouverneur de Kidal, nous accueille.
Alors c'est vraiment pas facile. Nous utilisons différents canaux de la société civile. Nous parlons avec les groupes armés des deux camps, que ce soit de la plateforme ou de la SEMA. Nous menons des actions pour ce qui concerne la protection des populations civiles, l'appui aux populations en difficulté, l'accueil des déplacés, la scolarisation des enfants, donc la marche des écoles, la remise en état des structures de santé.
Notre passage coïncide avec le combat entre SEMA et la plateforme. forme dans la ville d'Anefif. Même si le gouverneur garde espoir, il a condamné ces attaques des frères ennemis de Kidal.
Il y a des deux côtés des gens qui ne sont pas très sensibles au sort des populations civiles et qui veulent absolument en découdre, détriment de la paix. Je pense que c'est condamnable, quel que soit le côté d'où ça vient, mais ça ne doit pas nous décourager.
Alaï Ag est ressortissant de Kidal. Cordonnier, il travaille sous un petit hangar et gagne bien sa vie. Mais toujours, il pense à Kidal.
Ce qu'on voit en réalité, c'est le problème des ethnies. C'est ça qui se passe à Kidal aujourd'hui.
Kidal Agao, c'est aussi des déplacés, surtout les femmes et les enfants. La porte-parole des femmes de Kidal lance un appel aux différents combattants.
Je m'appelle Dadi Awalet Moussa de Kidal, que je demande à tous les hommes, à toutes les femmes, à toutes les jeunesses de songer la vie des humains. La vie des humains, ce n'est pas la vie des poulets. Et un pays aussi, s'il n'y a pas des hommes, il n'y a rien.
A signaler que le combat à Anefif a été très violent entre la SEMA et la plateforme. Anefif est actuellement contrôlé par la SEMA. Le bilan provisoire est de plusieurs morts de part et d'autre, des blessés, mais aussi des armes détruites. Gao, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Bénin, le tourisme est la deuxième source de rentrée de devises après l'agriculture et le commerce. Le pays vient de signer un mémorandum avec le Smithsonian, grande institution qui gère les musées de la capitale américaine. Idriss Fall a rencontré José Plia, directeur de l'Agence nationale de promotion du patrimoine et du tourisme, qui était hier à Washington pour signer cet accord.
Ça signifie beaucoup pour le Bénin et pour notre projet touristique. Ça veut dire qu'il y a une exigence de notre part dans nos projets touristiques et nos projets muséaux notamment, de travailler avec les meilleurs. Et c'est une marque d'abord de confiance dans les projets que nous allons développer, le musée à Abomey, à Ouida et surtout à Porto Novo. Ils sont venus en mission, ils ont vu, ils ont fait une semaine de visite et au terme de cela, ils nous ont donné leur accord de principe pour nous accompagner dans les contenus pour rendre nos grands projets de musée aux normes internationales.
Mais ça va coûter de l'argent. Combien et d'où va venir l'argent?
Oh, c'est une très bonne question. L'argent va venir essentiellement de choix que le gouvernement a fait. Le président Talon a fait un diagnostic implacable. Le Bénin est un pays qui n'a ni or, ni argent, ni pétrole. Il a l'agriculture et le port qui sont un petit peu arrivés au bout de ce qu'il pouvait apporter. Et pour générer de nouvelles ressources de richesse, pour créer un nouveau segment qui pourrait être l'avenir pour nos enfants, il s'est rendu compte que nous avions un trésor que personne jusqu'à présent n'avait exploité, c'est le patrimoine touristique, historique, culturel du Bénin. Donc c'est un véritable trésor qui ne demande qu'à être développé. On est passé d'un budget estimatif pour les grands investissements dans le tourisme de 450 milliards de francs CFA initialement prévus à aujourd'hui 600 milliards. Et majoritairement, l'argent pour les musées notamment viendra du budget national. Puis, les partenaires de la Banque mondiale, le FMI et d'autres de ce secteur-là.
Comme exemple d'intérêt touristique, Ouida. Est-ce que vous pouvez en parler? Ouida, c'est quoi?
Ouida, c'est déjà la première destination touristique au Bénin. C'est à 50 km de Cotonou. Et c'est une ville fameuse parce qu'elle a été créée quasiment pour le commerce de l'esclave. Les rois qui ont régné pendant 3 siècles à capturer des esclaves un peu partout dans les montagnes et les ramenaient à la côte pour les faire embarquer vers le Nouveau Monde. Et Ouida est devenu le principal port négrier d'embarquement. Plusieurs millions d'esclaves sont passés. Donc c'est une ville qui a gardé donc une riche histoire. On a des traces très très puissantes de l'arbre de l'oubli, de l'arbre du non-retour, l'endroit où les esclaves étaient parqués avant de partir. Il y a un chemin de croix. Et puis, autre chose très forte à Ouida, c'est la religion vaudou, c'est le berceau du vaudou, mais qui a réussi à cohabiter avec les religions révélées, la religion catholique, la musulmane. Donc c'est une ville de brassage religieux. Et enfin, c'est une ville de brassage ethnique et culturel. Au moment du return, lorsqu'il y a eu l'émancipation des esclaves et que certains sont revenus, notamment ceux qui étaient au Brésil, et aujourd'hui à Ouida, vous avez des De Souza, des Dorego, des Domingo, qui ont apporté, en revenant d'esclavage et en se réinstallant à Ouida, l'architecture afro-brésilienne. Tous les bâtiments de Ouida sont des bâtiments afro-brésiliens. La nourriture, on mange du feijoada comme au Brésil à Ouida, le concada, etc., etc.
C'était José Plia, directeur de l'Agence nationale de promotion du patrimoine et du tourisme au Bénin. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.